ma femme, et je croirais continuellement sa nuit.
Le monde moderne, dans toute sa puissance, en possession d'un capital...
Et j'ai toujours été très frappé par le fait que ce spectacle...
Mon corps, il est comme la cité du soleil, il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques.
Croisement, une émission de Philippe Petit. Bonjour messieurs, bonjour Alain Prochian, bonjour Philippe Descola. Alors c'est l'été, on n'entend pas le bruit des cigales et pour cause, nous sommes dans le bureau de l'administrateur du Collège de France et vous êtes là pour nous faire entendre vos convergences, vos points de friction. Bon, sur un thème qui peut paraître commun, l'homme est-il un animal ? Mais dont on verra qu'il peut être décliné à plusieurs temps. Alain Prochian, vous êtes neurobiologiste, vous occupez la chaire de processus morphogénétiques, vous êtes donc spécialiste de génétique évolutive, et vous avez beaucoup de choses à dire sur le propre de l'homme. De même, monsieur Philippe Descola, vous êtes anthropologue, vous occupez la chaire d'anthropologie de la nature, et vous aimez bien réfléchir comme Alfred Whitehead, que vous citez souvent, sur les frontières de la nature et de la culture. Whitehead qui disait « les bords de la nature sont toujours en lambeaux ». Mais avant de parler des bords, prenons les choses par le commencement. Moi, je me souviens un petit peu quand même dans ma classe de philosophie, puisqu'on a la chance en France d'avoir cette classe encore. Donc, qu'est-ce que l'homme ? Alors, réponse, en général, on ajoute un attribut. On dit l'homme est un animal politique. Hein, Aristote, l'homme est un animal pensant, Descartes. L'homme est un animal désirant, Spinoza, etc., etc. Donc il y a cette idée que, bon, sans un attribut que l'on se donne, une sorte de décision finalement de pensée, une décision de pensée, une décision philosophique, on n'arrive pas à définir le propre de l'homme. Alors peut-être que justement, pour répondre à la question « l'homme est-il un animal ?», est-on obligé, à mon sens, vous me direz si c'est obligé ou pas, de passer par cette question du propre de l'homme, c'est-à-dire que comment définir l'homme si on ne se contente pas de le définir par un attribut qu'on va lui donner de façon un peu souvent péremptoire. Alors, qui veut commencer ? Alain Prochian ?
Bon, peut-être, oui, mais juste pour remettre les choses un tout petit peu en place en ce qui concerne l'intervention de deux spécialistes de disciplines différentes, c'est que, bien que biologiste, je ne suis pas quelqu'un qui pense que tout peut se ramener à la biologie. C'est-à-dire que je peux concevoir qu'on ait des définitions différentes de l'homme en fonction du champ théorique à partir duquel on parle. C'est-à-dire qu'un anthropologue ne va pas avoir la même définition de l'homme qu'un biologiste ou qu'un physicien, ou qu'un sociologue. Donc il y a une diversité des disciplines qui fait que ce n'est pas l'un qui a raison et l'autre qui a tort, ce sont des points de vue qui sont des points de vue théoriques qui viennent de fait de la discipline à partir de laquelle on parle. Voilà, donc ces définitions doivent être éminemment variables, y compris les définitions nature-culture. C'est-à-dire que je crois à l'existence des champs disciplinaires distincts, même s'il y a des points de contact et donc des points de friction, comme on le disait avant de démarrer.
Je vais faire des remarques plutôt historiques qu'anthropologiques pour rappeler que c'est probablement une des caractéristiques de l'Occident que d'avoir tenté depuis la philosophie grecque de définir l'homme par rapport à l'animal avec des attributs supplémentaires parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement ailleurs. Et à ce titre, le fait même de penser l'homme et l'animal comme deux catégories autonomes dont l'une pourrait être définie par ajout de qualités appartenant à l'autre, etc., est quelque chose, je crois, d'assez propre au monde européen. Je veux simplement rappeler, par exemple, que Le terme animal, c'est-à-dire la catégorie englobante à l'intérieur duquel on va regrouper un ensemble d'organismes ayant des caractéristiques particulières, est quelque chose d'extrêmement rare en dehors des langues européennes. Dans la plupart des langues non européennes, il n'y a pas de macro-catégorie animale, il y a des macro-catégories de niveau inférieur. Donc on ne pense pas, en quelque sorte, ce que nous appelons le règne animal comme une totalité. Et de fait, dans l'histoire de la philosophie, on pourrait retracer ça, en effet, depuis Aristote, avec différentes étapes, l'animal a constamment constitué une sorte d'horizon pour essayer de définir le propre de l'homme, soit en le rapprochant des qualités que l'on prête à l'animal, soit au contraire, et ça c'est le mouvement qui est le plus manifeste à partir du XVIIe siècle, hein, le distinguant très nettement l'homme de l'animal. Donc ce jeu en somme entre l'homme et l'animal est constant dans l'histoire de la pensée européenne, mais est probablement caractéristique de la pensée européenne.
Alors si on prend ce doublet Alain Prochian homme-animal, qu'est-ce que peut nous dire le biologiste, j'allais dire en dehors, enfin c'est pas rien, hein, de la taille du cerveau humain qui a cette spécificité. Bon, effectivement, on l'a rappelé souvent, chez toutes les espèces, le cerveau sert à bouger, à se déplacer. Et c'est vrai que proportionnellement, le cerveau humain nous donne la possibilité, du fait de sa taille, bah, de réfléchir, non?
Oui, mais c'est les fameux 900 cm3 de trop. Sont pas non plus placés n'importe où. Donc ça me ramène à parler de l'homme est un animal. L'homme est un être vivant, c'est un animal, donc qui s'inscrit dans une histoire du vivant qui commence il y a 3,5 milliards d'années sur cette Terre. Je sais pas s'il y en a ailleurs, mais en tout cas sur cette Terre, il y a 3,5 milliards d'années. Et la question qui est posée aux biologistes, c'est de refaire cette histoire, de comprendre cette histoire et de voir à quel moment Sapiens a pu apparaître, Homo sapiens. C'est-à-dire que, à la fois, nous sommes rattachés à cette histoire du vivant, donc nous sommes des animaux, c'est-à-dire que, ou alors il faut renoncer à être biologiste, et en même temps, il y a la place de l'homme dans l'évolution. Et comment cette chose a pu se produire? Parce que si on parle des 900 cm3 de trop, par rapport à notre taille, à notre système sensoriel, ces 900 cm3 ne sont pas placés n'importe où, hein. Ils permettent des fonctions cognitives très élaborées, des fonctions linguistiques très élaborées, des fonctions sociales, artistiques, tout ce que vous voulez, culturelles justement extraordinairement élaborées qui sont celles de Sapiens, qui ont évidemment des origines dans les autres espèces, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun avec le chimpanzé, donc il ne s'agit pas de nier ça. En même temps, il faut comprendre comment le biologiste, c'est-à-dire que je suis, s'interroge évidemment sur comment ces choses-là sont apparues, comment elles se sont maintenues, à quelle vitesse, à la suite de quelles mutations, etc. Donc, si vous voulez, il y a à la fois continuité et puis il y a une discontinuité évidente qui apparaît avec les hominidés et particulièrement avec Sapiens, qui est une espèce extraordinairement jeune. C'est-à-dire qu'il faut réaliser que nous avons en gros 200 000 ans. C'est rien du tout, hein, sur 3,5 milliards d'années d'histoire de vie. Donc là, notre question, c'est celle-là, c'est-à-dire comment c'est apparu, et puis c'est ça qui fait notre spécificité, c'est cette irruption extrêmement rapide de ces changements qui font que l'animal sapiens est devenu ce qu'il est aujourd'hui.
Alors, cette spécificité produit parfois des surprises, en tout cas chez vous Alain Prochian, et Philippe Descola, je crois, pourra répondre à cette interpellation. Vous dites que parfois il y a comme folie à vouloir absolument se rapprocher, enfin être l'epsilon des singes. Et tandis que chez Philippe Descola, l'anthropologue, on a l'impression, au contraire, que du fait, pas simplement de votre intérêt, mais de votre observation des peuples animistes, vous avez plutôt contribué à rapprocher l'homme de l'animal. Tandis que si je me tourne du côté d'un Prochian, j'ai l'impression qu'il veut bien s'en rapprocher, mais à un moment il dit « Oh, stop, il y a quand même une différence ». Alors, est-ce que là-dessus vous pouvez vous frictionner, si je puis dire?
Alain Prochian disait tout à l'heure, il y a des discontinuités, des continuités entre les animaux non humains et l'animal humain. Et c'est un constat que tous les peuples ont fait. Simplement, ils n'ont pas fait passer ces discontinuités, ces continuités au même endroit. nous avons, à partir, je l'ai dit tout à l'heure, du XVIIe siècle, eu tendance à mettre l'accent sur le fait que la discontinuité centrale, c'était celle de la conscience réflexive, du cogito, de la capacité rationnelle, du langage, la capacité symbolique, etc. Ce qui était une rupture par rapport à une position plus nuancée auparavant, qui était au fond un héritage à la fois de Saint Paul et de c'est-à-dire que les animaux sont des créatures de Dieu, et en même temps un héritage d'Aristote, c'est-à-dire au fond l'idée que les animaux ont aussi un certain type d'âme, même s'ils n'ont pas la totalité des fonctions cognitives qu'ont les humains, ils ont quelque chose qui s'en rapproche, et au fond des gens comme Montaigne, dans l'Apologie de Raymond de Sebonde, avaient aussi développé cette idée. Et puis là, il y a vraiment à partir du XVIIe siècle, évidemment à partir de Descartes, la théorie des animaux-machines, etc. Là, il y a vraiment un passage à cette discontinuité beaucoup plus centrale qui, en même temps, implique une reconnaissance des continuités physiques. Donc là, vraiment, l'homme est un animal à peu près comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qui va rester constant pendant un certain temps, jusqu'à commencer à subir des fractures depuis une trentaine d'années, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, qui viennent en particulier du progrès dans certaines de sciences comme l'éthologie ou l'éthologie cognitive. Et ça, évidemment, c'est exactement l'inverse. Vous faisiez référence tout à l'heure aux études que j'ai pu faire dans des sociétés que j'appelle animistes. La frontière, la discontinuité, elle passe ailleurs dans ces sociétés. Elle passe au contraire par les corps. C'est-à-dire, dans ces sociétés, on considère que chaque espèce a des atouts biologiques qui lui sont particuliers et qui lui donnent accès à des mondes qui lui sont particuliers, qui sont en quelque sorte le prolongement de ses organes, un peu à la manière de l'éthologie de Jacob von Huxley. C'est-à-dire qu'une espèce est constituée par ses capacités biologiques et le monde que ses capacités biologiques lui ouvrent. Et en revanche, du point de vue de la subjectivité, de la capacité d'agir comme un agent social, ce sont des capacités qui sont reconnues à un très grand nombre d'existants non humains. Donc c'est exactement l'inverse du système de continuité et de discontinuité que nous avons, nous, reconnu.
À la prochaine.
Oui. C'est-à-dire que si vous êtes darwinien, de toute façon, vous êtes un animal. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette question, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est sûr que notre adaptation, elle est liée au milieu qui est le nôtre. C'est-à-dire que si on met un sapiens dans la jungle, aussi gentil et sympathique soient les animaux, il ne va pas faire long feu. Sauf qu'il va détruire la jungle. C'est-à-dire que l'autre chose, c'est que le Homo sapiens... Il travaille dans son milieu, mais en même temps, il sécrète son milieu, c'est-à-dire qu'il le produit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose quand même d'un tout petit peu différent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est capable vraiment de tout détruire, par exemple, ou de tout reconstruire, de créer notre propre environnement, qui lui-même, à cause de nos capacités cognitives particulières et de notre mode de développement particulier, nous construit nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes quand même le produit aussi de notre milieu au niveau cérébral. Donc, oui, il y a cette interaction entre le milieu et le vivant, bon, qui est bien classique, qui prend une valeur très particulière chez Sapiens à cause de sa capacité à, évidemment, envahir le monde et à le construire, pas forcément pour le mieux. Donc, oui, c'est le problème. Et le problème pour un biologiste, c'est de comprendre comment de petites différences, parce que ce sont de petites différences, forcément, puisque ça s'est fait très vite. Si Sapiens est apparu en quelques millions d'années, ce qui n'est rien du tout, justement Lucie ou Toumaï, c'est quoi, entre 7 et 8 millions d'années, donc c'est vraiment rien du tout, ça veut dire que de petites différences sur le plan biologique ont eu ces effets dramatiques sur le plan du phénotype, de ce que nous sommes, nous, Sapiens, et ça, c'est quelque chose qui veut dire qu'on ne doit pas prendre de façon un peu bébête, si j'ose dire, de façon comptable, je n'ai rien contre les notaires, mais de façon un petit peu notariale, ce fait que 1,23%, les fameux 1,23% qui nous séparent du singe, ferait qu'on serait à 98% chimpanzé. Ça n'a pas de sens, parce que justement, ce n'est pas proportionnel. À ce titre, on serait 88% souris, ou 60% mouche. Ce sont pas des... On ne peut pas calculer comme ça. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a une discontinuité, quand je dis qu'on est à la fois des animaux et pas des animaux, parce que ces modifications au niveau génétique entre nous, enfin ces différences entre nous et les chimpanzés, qui font dire que les chimpanzés sont bien mieux adaptés à un milieu comme la savane ou la forêt que nous, bien entendu. Eh bien, ces petites différences génétiques ont eu des effets absolument non proportionnels pour des raisons qu'on peut expliquer sur le plan biologique. Je ne vais pas faire de la biologie ici, mais qu'on peut quand même expliquer parce qu'on tape dans des éléments régulateurs qui font de l'expression de beaucoup de gènes, qui font que quelques mutations. Vous savez, c'est comme la bombe de l'oncle bricoleur de Boris Vian. Le problème, c'est l'endroit où est-ce que ça tombe. C'est-à-dire que quand la mutation tombe dans un endroit qui est très important sur le plan régulateur, vous allez avoir des effets sur les phénotypes qui sont sans commune mesure avec l'événement physique ou chimique qui est la mutation.
Néanmoins, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, est-ce que vous pouvez vous mettre d'accord sur ce que pourrait être un propre de l'homme ? Bah, s'agissant de l'aptitude technique, je crois que vous seriez prêts tous les deux à attribuer à l'homme cette spécificité de la techné. Je vois que non. En tout cas, à en reconnaître, disons, peut-être la valeur. Alors justement, quelles sont vos différences à ce sujet sur l'aptitude technique à proprement parler ?
Je parlais tout à l'heure des remarquables progrès de l'éthologie de terrain. Au fond, au fil des 30 ou 40 dernières années, l'éthologie s'est développée dans deux directions. Une éthologie de laboratoire qui a produit des résultats extrêmement intéressants, notamment dans les comparaisons entre les capacités cognitives humaines et celles des grands singes, mais pas simplement, à travers des expériences de laboratoire. Et puis l'éthologie de terrain, qui a permis aussi de mettre en évidence des comportements collectifs tout à fait originaux qu'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent ou qu'on soupçonnait mal ou qu'on discernait mal, et en particulier la capacité qu'ont pas mal d'espèces, maintenant on le sait, non seulement évidemment d'utiliser des techniques, mais de transformer ces techniques au fil du temps et de les développer de façon différentielle en fonction, alors c'est en particulier le cas chez les chimpanzés, en fonction des bandes. Donc si vous voulez, pour employer le langage de la préhistoire, il y a des traditions techniques différentes à l'intérieur d'une même espèce, et ça c'est ce qu'on pensait être tout à fait caractéristique des humains. Alors on sait maintenant que ça va bien au-delà on a fait pour les grands singes, maintenant on est à peu près d'accord sur une quarantaine de traits culturels variables. Alors le terme culture est toujours un peu problématique quand on l'emploie dans ces conditions, mais ce sont en tout cas des traits de comportement qui ne sont pas génétiquement transmis et qui varient. 40, c'est pas mal. Et c'est pour l'essentiel des traits qui ont à voir avec la technique. Ça peut être des techniques de chasse, ça peut être des façons d'utiliser des outils, ça peut être quelquefois des formes de communication, etc. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut, si l'on définit l'homme comme un homo faber, eh bien il faut étendre la barrière un peu plus loin et y inclure non seulement des grands singes, mais aussi des corneilles, différentes espèces qui ont ces caractéristiques de variabilité.
Les corneilles, pourquoi ?
Parce que certaines corneilles de Nouvelle-Calédonie...
Non, mais les auditeurs ne sont pas forcément... Au fait,
il y a des corneilles en Nouvelle-Calédonie qui fabriquent un outil assez spécifique, mais elles le fabriquent de façon différente. Cet outil spécifique, c'est une tige au moyen desquelles elles vont ramasser des insectes. Seulement, de vallée en vallée, la façon dont cette tige est faite et sa structure générale diffère. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de variation culturelle. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose que la chapelle Sixtine et les pyramides égyptiennes. Mais cela dit, c'est quand même des amorces dans des espèces qu'on ne soupçonnait pas de variété, de différenciation culturelle entre groupes à l'intérieur d'une même espèce.
À la prochaine.
Oui, mais moi je n'ai rien contre le fait qu'il y ait de la culture chimpanzée. Le problème, c'est le niveau culturel, c'est-à-dire que nous avons un ancêtre commun avec les chimpanzés et avec les corneilles, avec les bactéries, avec bien entendu. Donc il est tout à fait normal que nous ayons des évolutions des cultures qui soient inscrites d'une certaine façon dans l'histoire de l'évolution. La question, c'est à un moment, il y a des différences qui se font, qui sont des différences absolument dramatiques. Dit la chapelle Sixtine, ça c'est sûr. Un chimpanzé ne va pas vous faire la chapelle Sixtine. L'invention du langage, l'invention de l'écriture, l'invention de la technique, en plus accéléré cette chose de façon extraordinaire. Imaginez qu'en 1912, hein, un petit peu avant la Première Guerre mondiale, les avions s'élevaient à 3 mètres du sol. En 1960, quelque chose, on est sur la Lune. Donc il y a une accélération via la technique et en plus la façon de passer de génération en génération, ce qui fait qu'à chaque génération, on démarre de là où la génération précédente a en quelque sorte abouti, fait que, bien entendu, même si nous avons des points communs, y compris sur le plan culturel, y compris sur le plan sociologique, y compris sur le plan de la communication affective avec nos cousins chimpanzés, bien entendu, je crois qu'il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il y a une différence de degré qui est absolument faramineuse et tragique même, disons-le, carrément. Donc, c'est tout. Je veux dire que nous avons des cultures animales, oui, mais tout dépend de ce qu'on met derrière le terme culture. Et de nouveau, là, je pense que les différences de champs disciplinaires devraient nous amener à réfléchir à ce qu'on appelle culture en anthropologie, ce qu'on appelle culture chez un artiste, ce qu'on appelle culture chez un biologiste. Ce n'est pas la même chose. Ce qu'on appelle pensée, ce n'est pas la même chose non plus. Moi, je ne définis pas la pensée comme un philosophe. Pour moi, la pensée, c'est le rapport adaptatif entre l'homme et son milieu ou l'espèce et son milieu. À ce titre, les bactéries pensent pour moi parce qu'elles sont adaptées à leur milieu. Donc, ce qui n'empêche pas que je suis un défenseur assez acharné de l'exception humaine, parce que je pense que c'est un phénomène biologique extraordinairement intéressant qui a des répercussions en écologie, en sociologie. Et c'est nous qui sommes là autour de la table aujourd'hui à parler des singes, c'est pas le contraire.
C'est l'été, vous êtes peut-être sur votre transat ou sur la plage, ce qui n'empêche pas de réfléchir et d'écouter France Culture en compagnie des professeurs Alain Prochian et Philippe Descola qui discutent de savoir si l'homme est ou pas un animal. Alors franchissons un pas supplémentaire, nous venons de réfléchir sur le mot faber. Est-ce qu'on peut distinguer l'homme de l'animal en disant, sur le plan des espèces, de l'espèce, que l'espèce humaine est une espèce tragique? Est-ce qu'il existe, excusez ma naïveté, des animaux tragiques?
Il faudrait leur demander.
Le problème, c'est qu'ils,
le problème, c'est qu'ils n'ont pas la langue, une langue que nous puissions comprendre. Donc, demander à un singe s'il est tragique. Bon, le tragique, pour nous, c'est essentiellement l'anticipation de la mort, d'une certaine façon. Donc, c'est ça qui rend la vie tragique pour Sapiens. Je ne pense pas que même si un singe peut avoir à un moment donné l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se passer, il ait le même sens du tragique qu'un sapiens. Parce que derrière cette question de savoir si l'homme est un animal, il y a une autre question qui se cache, qui est à mon avis aussi importante, qui a des conséquences philosophiques et sociologiques très importantes, c'est est-ce que les animaux sont des hommes?
Oui, oui.
Et derrière cette question de l'animalisation de l'homme, à laquelle je ne saurais m'opposer parce que je pense que l'homme est un animal, et puis ce n'est pas déplaisant d'être un animal de temps en temps quand on est un sapiens, il y a cette autre question qui viendrait à voir un homme en chaque animal. Là, je pense que c'est beaucoup plus grave et ça a des conséquences qui sont beaucoup plus dramatiques, je pense, sur la façon dont on peut organiser les sociétés et dont on peut voir l'évolution des sociétés. C'est-à-dire que pour moi, je serais tout à fait opposé à l'humanisation de l'animal, tout en acceptant l'animalité de l'homme. Donc ça, je crois que c'est une question qui est importante. À travers cette question, est-ce qu'il y a des animaux tragiques? Je pense que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a de l'humain chez l'animal, même si on accepte qu'il y ait de l'animal chez l'humain? C'est qu'en miroir, ce n'est pas la question n'est pas entièrement symétrique, si vous voulez, pour moi.
Philippe Descola.
Oui, moi, je voudrais revenir sur le plan scientifique sur lequel se place Alain Prochian, c'est-à-dire, en effet, celui de ma discipline de l'anthropologie. Réfléchir en termes de nature humaine universelle pose le grave problème pour un anthropologue de projeter les conceptions que nous avons, nous, de la nature humaine, qui sont forgées au fil du temps, dans des discussions philosophiques et théologiques, sur d'autres populations qui ont des conceptions très différentes de la nature humaine, si tant est qu'elles en aient une, la plupart du temps ce n'est pas le cas, et ou du rapport entre l'homme et l'animal. Et de ce point de vue, du c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, on doit se garder de ce genre de projection. Donc on peut s'amuser à spéculer, c'est le propre de la philosophie depuis longtemps, sur le rapport entre l'homme et l'animal, sur qu'est-ce qu'il y a d'animal dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans l'animal. Mais la question, me semble-t-il, est mal posée. Ce qui nous intéresse, nous, lorsqu'on étudie les différentes façons qu'ont les humains et qu'ont eu les humains au fil du temps, pour autant qu'on peut les reconstituer, de percevoir ces continuités, ces discontinuités entre humains et non-humains, ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir quels sont les outils qu'ils ont utilisés pour penser ces différences et pour penser ces ressemblances. Et donc une théorie anthropologique qui a vocation, tout comme la biologie, à une certaine forme d'universalité, doit se dégager, bien évidemment, des représentations historiques au moyen desquelles nous nous sommes nous-mêmes pensés dans notre trajectoire historique. Et pour ce faire, il faut essayer d'éviter de poser la question en termes abstraits, l'homme d'un côté, l'animal de l'autre, et regarder plutôt quels sont les petits éléments, les outils qui sont employés, quels qualité particulière de telle espèce animale va être retenue dans tel cas pour définir, disons, des propriétés symboliques d'un animal ou d'un groupe humain, etc. etc. Donc c'est un travail de même nature que celui du biologiste qui demande un énorme travail d'enquête empirique, de recensement de données et qui empêche de se prononcer en des termes abstraits et un peu généraux sur quel est le propre de l'homme. S'il y avait une réponse à cette question, d'ailleurs Alain Prochian l'a dit tout à l'heure, c'est des différences de degrés. Maintenant, on est, je crois, à peu près tous d'accord là-dessus et pas des différences de nature, comme ça l'a été conçu pendant longtemps, c'est des différences de degrés. Toute la question de savoir quels sont ces degrés. Mais si on devait répondre à la question quel est le propre de l'homme, ça serait effectivement une capacité absolument considérable par rapport à n'importe quelle autre espèce animale à produire de la différence. Et c'est ça qui est important. Et cette différence, elle est à la fois évidemment interne à l'espèce humaine et par rapport aux autres espèces. Et cette différence, une fois produite, il faut la stabiliser dans des systèmes, et ces systèmes se développent, se transforment, etc. Donc s'il y a quelque chose du propre de l'homme, c'est ça. Mais ces différences, il faut les percevoir aussi. Et tout le monde ne les perçoit pas de la même façon dans les différents systèmes culturels dont on a fait sur lesquels on a des informations dans le monde. On fait passer, encore une fois, ces différences à des endroits différents. Et c'est ça qui intéresse, au fond, les sciences de la culture, si on peut employer un terme un peu général par rapport aux sciences de la nature, c'est de comprendre les mécanismes qui permettent cette production systématique de différences et les moyens par lesquels elles se stabilisent.
Alors, sur quoi se rencontrent les sciences de la culture et les sciences de la nature? Sur quoi elles divergent? Et est-ce que, si on s'interroge sur la manière dont l'homme habite le monde et ou son milieu, et la manière dont l'animal habite son milieu, est-ce qu'il n'y a pas pour le spécialiste de la génétique du développement, pour le morphogénéticien, évidemment, il n'y a pas un rapport de cause à effet, réfléchir sur la manière dont les gènes se développent, c'est-à-dire tout simplement comment une main devient un main et comment un pied devient un pied. Alors, ça nous aide peut-être à comprendre après comment ce pied et cette main vont s'adapter à un environnement donné. Et c'est vrai que cette possibilité, disons, de recul, de compréhension par rapport à comment on habite un milieu, a priori, l'animal ne l'a pas. Mais néanmoins, il habite aussi un milieu. Alors, est-ce qu'il y a des points entre vous qui peuvent se rencontrer ou frictionner à nouveau ? Sur cette question de l'environnement, du milieu, de l'umwelt et de par rapport à vos disciplines.
Pour nous, c'est un petit peu, c'est-à-dire que je définis la pensée comme non pas une substance qui serait sécrétée par le cerveau, mais comme un rapport, c'est-à-dire qu'un rapport entre l'individu et son milieu, mais aussi un rapport entre l'espèce et son milieu, c'est-à-dire que les espèces évoluent comme les individus évoluent. Donc, à partir de là, bien entendu. Comme je disais, on peut dire qu'une bactérie pense, mais ça c'est une définition biologique de la pensée, une bactérie pense, une plante pense, indépendamment du fait que vous ayez ou que vous n'ayez pas un système nerveux. Mais à partir du moment où il y a eu des systèmes nerveux, les interactions avec le milieu sont devenues beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes, et à partir du moment où le système nerveux, à la suite de sortes de mutations qui affectent d'autres parties que le cerveau, mais qui affectent énormément le cerveau, ont permis l'expansion de ce cortex qui a, comme je le disais, 900 cm3 de trop par rapport à un cortex de chimpanzé, et 900 cm3 sur 1300 ou 1400, c'est-à-dire que c'est pas de la blague. Et en plus, c'est pas 900 cm3 qui sont tombés dans les aires visuelles ou dans les aires olfactives, ils sont tombés dans des régions qui sont des régions qui permettent la cognition, pour faire large, la langue, les capacités cognitives, les comparaisons, etc. Donc, à partir de là, les capacités d'interaction avec le milieu sont devenues extraordinairement grandes. C'est-à-dire que, et même impensables quasiment aujourd'hui. C'est-à-dire que à chaque instant, chacun d'entre nous peut être aujourd'hui en contact avec n'importe quel endroit du globe à l'aide des technologies que ce cerveau a sécrétées. Il se trouve que quand on fait ça, on enrichit le milieu. C'est-à-dire que notre milieu de sapiens s'est considérablement enrichi à travers la technique et à travers la culture d'une façon générale. Donc à la fois, nous sécrétons une culture qui est extraordinairement plus riche que celle d'un animal autre, hein, pour dire les choses comme ça, mais en même temps, cette culture nous sécrète. D'accord ? C'est-à-dire que nous nous développons enfants et même adultes, parce qu'on continue à se développer chez adultes, dans un milieu qui lui-même est de plus en plus riche. Ça veut dire que par ce jeu de nature-culture, mais au fond, on ne peut pas faire la différence, puisqu'il y a une interpénétration entre le milieu et le vivant, bien entendu, à travers ce qu'on appelle la pensée, ce rapport. Eh bien, de ce fait, notre système nerveux est incroyablement différent de celui qui pouvait être celui de nos ancêtres, sur le plan culturel, bien entendu. Donc, un enfant qui aujourd'hui, ben vous avez fait des expériences de ce genre, c'est-à-dire qu'on est un petit peu le chimpanzé toujours de la génération suivante, parce qu'ils ont des approches d'outils que nous, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre un môme devant un ordinateur aujourd'hui, il va être 10 fois plus performant qu'un professeur au Collège de France qui est quand même atteint un certain âge, malheureusement. Donc, mais ça, c'est extraordinaire. Et c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte quand on fait des catégories aussi peu séparables que nature-culture. C'est pas séparable pour nous. Hein. Nous sommes un prolongement de la culture et la culture est un prolongement de sapiens. Et puis, ça coévolue, pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs, hein, parce que bon, ça va mal se terminer, comme chacun sait, voilà.
Philippe Descola.
Oui, ça va de soi que les populations humaines, même les populations de chasseurs-cueilleurs, transforment profondément leur environnement, que c'est une des caractéristiques de cette espèce que nous formons. Je me souviens d'une remarque qu'avait faite un leader aborigène en Australie lorsqu'on avait créé un parc naturel dans l'Australie centrale. Et il avait dit, oui, mais vous appelez ça wilderness, vous appelez ça un espace sauvage, mais en réalité, ce n'est rien de sauvage parce que, bien sûr, les êtres ancestraux à partir desquels les groupes totémiques sont formés sont apparus dans différents coins du paysage, mais aussi parce que nous avons transformé le paysage avec les feux de brousse. Et comme ils sont en Australie depuis à peu près 70 000 ans, des feux de brousse répétés modifient évidemment la composition phytosociologique des végétaux. Donc même des populations de chasseurs-cueilleurs transforment parfois très profondément leur environnement. Peut-être quelque chose qu'il faudrait souligner, c'est qu'au fond, les animaux, depuis 200 000 ans à peu près, que nous coexistons avec des animaux non humains, se sont progressivement adaptés aussi aux humains, et nous-mêmes, nous sommes progressivement adaptés à des populations animales, soit macroscopiques, soit microscopiques, de sorte que l'interaction est constante et qu'il y a une histoire humaine des animaux de la même façon qu'il y a une histoire animale des humains. Et ce sont des recherches qui sont encore dans les limbes à l'heure actuelle, mais on travaille sur des populations d'animaux sauvages pour essayer de comparer les différentes formes d'interaction avec ces animaux sauvages. Je pense à des recherches qui sont menées actuellement sur le loup en particulier. Les loups ne sont pas exactement identiques lorsqu'ils sont au milieu de populations d'éleveurs nomades en Asie centrale, lorsqu'ils sont dans des parcs en Norvège ou lorsqu'ils sont dans des montagnes de Macédoine, par exemple. À chaque fois, les caractéristiques, au moins comportementales, des meutes varient. Et on peut multiplier les exemples de ce type-là. Donc nous avons une coévolution qui a des effets très très profonds sur la façon dont les animaux se sont adaptés à un environnement que nous avons progressivement transformé au fil du temps aussi, puisque les animaux ont dû s'adapter au développement avec la néolithisation de grands espaces cultivés, etc. Et d'autre part, les animaux domestiques et sauvages, l'une des caractéristiques au fond de la néolithisation, c'était d'avoir produit des environnements au sein desquels il fallait pouvoir faire coexister des animaux domestiques et des animaux sauvages, des plantes cultivées et des plantes sauvages, etc. Donc ces transformations ont eu des conséquences profondes sur la vie animale et on ne peut pas les envisager, comme l'a fort bien dit Alain Prochian, une distinction nette entre nature et culture, sauvage et domestique, autrement que comme des fictions philosophiques ou idéologiques permettant de penser le monde, mais qui ne reflètent en aucune façon la construction des paysages et les rapports réels et techniques et pratiques que les humains entretiennent avec le monde des non-humains.
Alain Prochian.
Oui, pour rebondir de façon un tout petit peu différente là-dessus, c'est avec Darwin, si vous voulez, on a pensé, et Darwin l'a proposé, que le moteur d'évolution, c'était la compétition entre individus. Et donc, évidemment, quand on dit compétition entre individus, on se casse dans le cadre d'une même espèce, c'est-à-dire entre humains, entre chiens, ou plutôt entre loups, etc. Le problème de la domestication est aussi un problème qui est extraordinairement intéressant. Quand on voit toutes les formes de chiens qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est absolument ahurissant. Vous voyez un basset, un chien-loup, et c'est interfertile, c'est quasiment incroyable, même sur le plan mécanique. Mais bon, il se trouve qu'on sait aussi, depuis, en particulier, c'était popularisé par Stephen Jay Gould, on sait aussi qu'il y a une compétition inter-espèces. C'est-à-dire que cette coopération entre les espèces, cette coévolution entre les espèces, c'est aussi une compétition inter-espèces. Hein. Et ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que l'évolution, ce n'est pas uniquement l'interaction, la compétition entre individus, ce n'est pas uniquement le survival of the fittest au niveau individuel. C'est aussi une guerre, entre guillemets, qui se produit entre les espèces, avec des espèces qui disparaissent, des espèces qui meurent, des espèces qui doivent évoluer très vite pour survivre, dans cette interaction entre notre espèce, mais aussi toutes les autres espèces qu'ils peuvent avoir sur ce globe, qui est tout petit, finalement, hein, faut quand même le voir. Donc, sur cette petite caillou hein, de rien du tout, eh bien, la guerre fait rage.
Alors, voilà. C'est l'été, j'ai lu il n'y a pas longtemps le livre de Thierry Laudet sur la biodiversité amoureuse. C'est vrai que pendant longtemps, on ne s'interrogeait pas de savoir si les animaux, enfin certains animaux, étaient homosexuels ou pas, parce que en bon darwinien, on disait on ne voit pas trop à quoi ça sert d'être homosexuel pour la reproduction et donc pour l'adaptation et pour l'évolution et pour la sélection. Bon, il semblerait que, moi je ne suis pas spécialiste de la biodiversité amoureuse, mais bon, voilà, ça faisait une différence. On disait les humains, de manière très sophistiquée, évidemment chez les Grecs, mais dans d'autres civilisations, développaient une sexualité inventive, et les animaux, eux, bah non, reproduction, pas du tout d'amusement. Alors, c'est une différence qui, visiblement, est en train de s'amenuiser encore entre l'homme et l'animal.
À la distinction près que l'homme sait qu'il se reproduit quand il le fait. Il peut même développer aujourd'hui des techniques extraordinaires, c'est-à-dire qu'on pourra bientôt se reproduire sans sexualité. On le fait déjà, d'une certaine façon. D'ailleurs, ce n'est pas indifférent à la question qui est posée aujourd'hui de l'humanisation des animaux d'une certaine façon, c'est-à-dire la disparition peut-être du sexe, carrément. Ce qui est un arrière-plan de ça, sous une forme de puritanisme sur lequel on pourrait peut-être discuter à un moment ou à un autre. Mais les animaux ne savent pas qu'ils se reproduisent. C'est-à-dire que, bon, ils ont des rapports sexuels qui sont guidés par les instincts et les hormones, et bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Sapiens, là, a une différence tout à fait importante, c'est-à-dire qu'il est capable de séparer la reproduction de la sexualité. Et c'est ce qui donne d'ailleurs à la sexualité tout son charme, si j'ose dire.
Oui, c'est pas un anthropologue qui va... je ne veux pas pousser trop loin mon rôle d'iconoclaste quand même, puisque un anthropologue, par définition, est un spécialiste des humains. Simplement, je fais partie des anthropologues qui souhaitent inclure un peu de non-humains dans les humains et ne pas simplement considérer l'homme dans une position impériale et le reste du monde comme un entourage ou un décor. Bon, pour ce qui concerne la sexualité, en dehors de la sexualité, il y a aussi les liens que l'on tisse à travers les rapports sexuels, c'est-à-dire au fond tous les liens de parenté qui constituent l'un des domaines d'étude privilégiés de l'anthropologie depuis longtemps. Et il suffit de rappeler une formule classique en anthropologie que Lévi-Strauss a développée par exemple dans les structures alimentaires de la parenté, mais qui remonte à l'anthropologie anglaise de la fin du 19e siècle. Marrying out or killing out, c'est-à-dire il faut se marier à l'extérieur du groupe familial ou bien on fait la guerre. Donc l'échange des femmes est un des fondements de la sociabilité, et de ce point de vue, effectivement, la sexualité sert à bien autre chose, à la fois que d'avoir du plaisir et en même temps que de faire des enfants. C'est aussi la condition élémentaire de la production de la vie sociale à travers l'échange, la circulation des conjoints et tout ce que cela implique évidemment en termes de construction sociale. Et ça, de ce point de vue-là, effectivement, même s'il y a des formes de prohibition dans certaines espèces animales, on n'a nulle part de la complexité de ces formes d'échange de conjoints, de nomination, de système de nomination de parents qui classent le monde des humains selon la façon dont on va les nommer et évidemment selon la façon dont on va les traiter, qui sont évidemment tout à fait caractéristiques de l'espèce humaine.
Alors, autre caractéristique qui revient sans arrêt sur le tapis, et pas seulement depuis Darwin, qui a développé également une morale, aujourd'hui l'empathie, l'altruisme deviennent de véritables monnaies d'échange pour celui qui voudrait réenchanter, celui ou celle qui voudrait réenchanter le monde. Alors qu'en est-il, disons, de cette question de l'empathie, de l'altruisme chez l'animal et chez l'homme?
Alors là, vous me posez une colle. En tout cas, je ne suis pas tellement un spécialiste ou un grand connaisseur de ces questions. Non, je pourrais faire un petit cours de neurobiologie sur les origines anatomiques de l'empathie et sur les nécessités d'altruisme sur le plan de l'évolution. Mais honnêtement, je ne me sens pas de taille. C'est clair que chez Sapiens, nous avons la capacité d'éprouver ce que l'autre éprouve, c'est-à-dire en tout cas de se l'imaginer, de se le figurer, hein, l'intentionnalité ou l'idée de ce qu'il va faire, de ce qu'il pourrait penser, développer des stratégies en pensant aux stratégies que l'interlocuteur lui-même développe. Ça existe aussi d'une certaine façon chez les chimpanzés, et c'est toujours la même chose. Ça existe à un niveau qui est moindre, bien entendu, bien moindre, parce que les régions corticales qui sont impliquées dans ces questions sont plus développées. Ça relève quand même, malgré tout, de la construction de cet organe que nous portons sur le haut et que les animaux portent à l'avant, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, donc oui, nous avons plus de capacités cognitives, et ça fait partie de la cognition, d'être capable de ressentir, par la force de la pensée, ce que l'autre va bientôt ressentir de façon beaucoup moins sympathique, ou alors même le plaisir, dans l'autre sens. L'anticiper chez l'autre, ou le prédire chez l'autre, avec les pathologies qui sont associées à la perte de ces fonctions, hein, qui sont des pathologies dramatiques.
Philippe Descola.
Pour qu'il y ait perception d'un autrui avec lequel je puisse échanger, il faut assez souvent qu'il y ait conscience de soi aussi. Or, maintenant, on sait que dans le monde des animaux non humains, il y a un nombre croissant d'espèces, pas tous les individus d'ailleurs à l'intérieur d'une même espèce, puisqu'il y a des capacités variables de ce point de vue-là, qui sont capables de passer le fameux test de la pastille rouge, verte ou noire ou blanche, etc., c'est-à-dire de se reconnaître dans un miroir. On colle une pastille et puis l'animal l'aperçoit et essaye de l'enlever. Il y a bien sûr des grands singes, il y a des oiseaux, il y a des pies, il y a les dauphins, mais si mes souvenirs sont bons, il y a des éléphants, etc. Donc ça, c'est un premier stade. Hein. Autrement dit, pour établir un rapport constructif avec un autrui, il faut d'abord avoir peut-être une conscience réflexive de soi. Et puis sur un plan plus général, il me semble que cette capacité d'empathie, ce que Rousseau appelait la pitié, c'est-à-dire la capacité que j'ai de reconnaître dans un autrui humain ou non humain un petit peu de moi-même, est un fondement de la vie sociale, mais c'est un fondement de la vie sociale qui permet d'étendre éventuellement la vie sociale au-delà de la vie sociale des humains. Et c'est au fond le type de projection que nous faisons lorsque nous entretenons des rapports quotidiens avec nos animaux de compagnie, ou bien lorsque nous souffrons devant une souffrance animale. Je pense à Nietzsche avec le cheval de cheval de fiacre qu'on achève parce qu'il est épuisé par le labeur qu'on lui demande. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique à la fois des humains et aussi de certaines espèces, et qui permet probablement une communauté de vie beaucoup plus grande que celle qui se résout à simplement le monde des humains et de la vie sociale.
Est-ce qu'il existe des sociétés dites primitives, comme disait Lévi-Strauss, qui soient végétarienne, bon, la souffrance envers l'animal ou la souffrance que l'on inflige à l'animal aujourd'hui passe par les images des abattoirs de Chicago ou d'ailleurs plus près de nous, et qui sont comme cette possibilité inouïe de faire souffrir la bête et de le sacrifier sans les règles, disons, qui furent celles des religions monothéistes, en tout cas celles du judaïsme, qui sacrifiait, si je puis dire, en douceur les animaux. Et est-ce que c'est une question qui croise vos disciplines ?
Alors, si on entend par société primitive, société sans écriture, qui était l'expression qu'employait Claude Lévi-Strauss, à ma connaissance, il n'y a pas de société végétarienne, en tout cas végétarienne par parti pris culturel ou idéologique. Cela dit, le fait, de, par exemple, de traiter le gibier comme... une sorte d'humain, c'est-à-dire comme des personnes, qui est quelque chose qui est très commun dans ce que j'ai appelé le monde de l'animisme, n'implique pas que l'on ne va pas tuer l'animal et le consommer. C'est parce que, de la même façon, on peut aussi tuer son ennemi humain et quelquefois aussi le consommer. Donc ça n'a pas de conséquences nécessairement immédiates dans le traitement qu'on va lui faire subir. Simplement, c'est un traitement dans lequel il sera socialisé, humanisé, et on le traitera, on lui donnera la dignité en quelque sorte d'un partenaire social, alors qu'on la dénie aux animaux lorsqu'ils sont, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, abattus dans les abattoirs de Chicago ou d'ailleurs. De la même façon, on trouvait nécessaire à Athènes que le bœuf acquiesce à son sacrifice en baissant la tête, etc. Donc il y a toutes sortes de dispositifs de ce type-là que certains interprètent comme une façon de féminiser la mort de l'animal, ou comme une façon de se donner bonne conscience vis-à-vis de l'animal. Dans certains cas, c'est peut-être vrai, mais qui en tout cas sont autant de façons de traiter l'animal comme un partenaire social, au fond inclus d'une certaine façon dans la communauté humaine. D'ailleurs, on disait, vous évoquiez tout à l'heure l'homme comme animal politique, l'expression qu'emploie Aristote, c'est « zone politikon », c'est-à-dire en fait l'animal domestique, c'est pas un animal sauvage, c'est l'animal domestique parce qu'il est déjà inclus dans la vie de la cité, à la fois comme un instrument de travail, comme une valeur, et aussi pour le bœuf de labour, comme l'objet principal du sacrifice.
En approchant.
Oui, là je vais sortir un tout petit peu de mon rôle de biologiste, parce que il y a dans cette idée d'humanisation de l'animal quelque chose qui peut amener à des positions que je trouve personnellement tout à fait détestables et insupportables. Quand on peut lire sur la plume de certains collègues ou de certains sapiens des comparaisons, si vous voulez, entre le traitement des poulets et ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale à Auschwitz ou ailleurs, ou dire qu'un jour on fera, de cette façon, on considérera la position des animaux dans la société comme on voyait celle des Noirs ou celle des femmes au XVIIIe ou XVIe siècle, etc. Il y a des comparaisons qui, pour moi, sont totalement inacceptables et que je ne peux pas accepter. En tant que biologiste, à ce moment-là, de nouveau, quand je fais de la recherche, je suis bien obligé de travailler avec des animaux. Et je crois que, bien entendu, on voit aujourd'hui un tas de mouvements qui sont en train d'empêcher l'expérimentation animale. Alors, l'expérimentation animale est absolument indispensable si on veut faire progresser les connaissances, qui en soit quelque chose d'important, indépendamment de tout problème de médecine. Je pense que les connaissances, c'est quelque chose qui est quand même le propre de Sapiens, d'une certaine façon, puisqu'on revient à cette histoire. Mais aussi, évidemment, des implications qui sont dans le développement de technologies qui peuvent être importantes pour la santé. Je crois que l'agriculture doit pouvoir se développer. Je crois que... Donc, il y a un moment où il y a la discussion philosophique, il y a la question intellectuelle, mais il y a aussi des positions qui me paraissent tout à fait inacceptables pour quelqu'un qui veut rester un tout petit peu raisonnable de ce point de vue. Et je vois que je suis très choqué par certaines prises de position que je lis sur, oui, c'est une comparaison qu'on aurait pu penser être totalement tabou, hein, et que je pense devrait rester tabou quand même, parce que Sapiens, c'est Sapiens.
Sapiens, c'est Sapiens. Nous continuons notre conversation en compagnie de Alain Prochian et Philippe Descola sur le thème « L'homme est-il un animal ?» Alors, bon, dans la manière dont vous conduisez vos recherches, bon, Alain Prochian, vous travaillez souvent sur des animaux, des gentils animaux, des mouches, des souris ou d'autres. Mais bon, ce qui caractérise quand même le sens biologique, vous l'avez dit souvent, hein, c'est dans une problématique qui est proche d'ailleurs de celle de Bachelard, c'est la répétition infinie de l'erreur. Hein. Il faut savoir se tromper pour pouvoir découvrir. Alors, est-ce que c'est pareil pour l'anthropologue, ce rapport à la recherche? Est-ce que finalement, aussi bien face aux animaux que face aux humains, est-ce que vous êtes les mêmes hommes dans les mêmes dispositions de travail, de pensée et de recherche?
C'est une question qui est difficile dans la mesure où, au fond, l'expérimentation, qui est peut-être le trait le plus remarquable du développement des sciences à partir du XVIIe siècle, l'expérimentation entendue dans un sens très particulier, c'est-à-dire l'idée que l'on va concevoir par la pensée un phénomène que l'on va produire par instrumentation matérielle et dont on va faire varier les paramètres. Ça, c'est quelque chose de très nouveau dans l'histoire des sciences, qui n'a existé au fond pratiquement nulle part ailleurs et qui a donné un cours tout à fait particulier au développement des sciences à partir de la révolution mécaniste, disons. Ce type d'expérience-là, nous ne la faisons pas, nous qui travaillons sur des populations réelles, parce que nous ne fabriquons pas des conditions expérimentales. En revanche, chaque type d'étude que nous menons sur une population particulière constitue en elle-même une sorte d'expérience, mais une expérience aussi dans laquelle, et c'est tout particulièrement le cas en ethnologie, l'observateur se sert de lui-même comme d'une sorte de dispositif expérimental. Et c'est la combinaison de ces expériences renouvelées, mais qui ne sont jamais évidemment paramétrées, qui sont fondées au fond sur des techniques assez semblables, mais très empiriques, d'investigation, qui permet, par l'accumulation des matériaux, et en ce sens, nous sommes aussi des sciences historiques, par l'accumulation des matériaux, de faire des hypothèses sur la vie sociale et ensuite de vérifier ces hypothèses en regardant si elles correspondent à des faits avérés, à des faits recueillis par des ethnographes ou par des historiens. Donc c'est une façon extrêmement différente de procéder, mais qui est néanmoins, à un certain stade de la recherche, de type hypothético-déductif, c'est-à-dire nous formulons des hypothèses et ensuite nous examinons à partir de la documentation existante si ces hypothèses sont validables ou pas.
À la prochaine.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de science idéale ni d'idéal de la science, c'est-à-dire que ce sont des constructions culturelles, les sciences. Donc chaque champ disciplinaire va construire ses propres façons de travailler et aucune ne peut ériger des règles pour les autres. Ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment important. Pour ce qui est de la biologie, c'est peut-être assez peu éloigné de ce que raconte Philippe Descola, parce que nous travaillons sur des objets qui sont des objets en évolution. C'est-à-dire que vous perdez votre poids en cellules par an, d'accord ? Donc, d'une année sur l'autre, vous n'êtes pas la même personne. En même temps, ça change, votre génome est instable, tout ça. Ce n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire que tout ça est extraordinairement fragile, instable, cassable, réparable, pas toujours à l'identique, c'est-à-dire que nous sommes des êtres en évolution au niveau individuel, comme nous sommes des êtres en évolution au niveau des espèces. Et de ce point de vue, je ne peux pas faire de marche arrière. C'est-à-dire que je ne peux pas revenir en arrière, disons, il y a 300 millions d'années, pour voir si 300 millions d'années plus tard, nous sommes là. D'ailleurs, nous ne le saurions pas, hein, probablement. Donc, et de même, je ne peux pas dire, ben voilà, je vais revenir 20 ans en arrière, et puis 20 ans après, je suis là avec Philippe Descola et vous en train de discuter. Non, c'est une autre vie, c'est une autre personne. Donc, d'une certaine façon, ce sont des objets historiques sur lesquels nous travaillons, et ce qui rend la chose assez compliquée. Ce que nous pouvons faire, et je ne suis pas sûr, c'est tellement différent de ce que peut faire quelqu'un comme Philippe Descola, ce que nous pouvons faire, c'est donner des règles universelles de ce pour comment on évolue, de ce comment on se construit, etc. Donc ces règles, on peut essayer de les faire aussi universelles que possible, parce qu'évidemment, ça aussi, ça peut changer. Mais on peut faire donc des théories qui se construisent et qui sont aussi des théories évolutives, parce que sinon, c'est des dogmes. Donc ces théories sont amenées à changer et à se modifier avec, évidemment, ce qu'on appelle, entre guillemets, le progrès des sciences. Mais pour un biologiste, il faut construire ces compréhensions, ces universaux, parce que c'est quand même une science, c'est une science, mais en même temps qu'ils rendent compte de ces singularités que sont chaque espèce, que sont chaque individu dans une espèce, et des singularités évolutives elles-mêmes. Donc c'est probablement plus compliqué que la façon dont un physicien penserait sa discipline. Mais ce n'en est pas moins scientifique pour autant. Il n'y a aucune relativité dans cette affaire. Donc nous essayons de faire des règles universelles. Mais évidemment, notre discipline évolue et nos théories évoluent aussi. Ben, sinon, je ne sais pas ce qu'on ferait là.
Philippe Descola, vous êtes d'accord avec ces règles universelles ?
Oui, bien sûr. Moi, je ne parlerai pas d'universaux, mais plutôt d'invariants. Les universaux, en anthropologie, on les laisse plutôt à des sciences qui travaillent sur des capacités humaine, je pense à la psychologie, je pense à l'ergonomie par exemple, ou bien sûr à la biologie, qui permettent de mettre en évidence donc des éléments d'universalité dans le propre de l'homme. Nous travaillons sur des invariants, c'est-à-dire sur des façons constantes de différer les uns par rapport aux autres. C'est surtout ça, puisqu'au fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un propre de l'homme, c'est de produire des différences. Et seulement ces différences ne sont pas produites au hasard. C'est au fond le postulat de départ de l'anthropologie. Et si ces différences ne sont pas produites au hasard, il doit y avoir des régularités dans la façon dont on les produit et dont on se différencie non seulement d'individu à individu, mais nous travaillons plutôt de culture à culture, de société à société, pour produire éventuellement du neuf. Et donc de ce point de vue-là, l'objectif de l'anthropologie, même s'il a été un peu passé de côté par un excès, à mon sens, de critique postmoderne des grands récits scientifiques, l'objectif de l'anthropologie continue à être celui-là, c'est-à-dire de comprendre des invariants dans la constitution de la nature humaine.
Philippe Descola, à l'approchant, généralement, quand on pose la question à un enfant, l'homme est-il un animal ? Il vous répond oui et non. Est-ce que vous pourriez répondre cela pour finir, pour conclure ?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire tout au long de cet entretien.
Merci à tous les deux. Vous voyez, les enfants ont des réponses spontanées qui sont parfois riches d'enseignements. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien croisé. Philippe Descola, Alain Prochian. Cet entretien donc de l'été 2011 sur France Culture.
C'était Croisement, une émission de Philippe Petit, réalisation Philippe Baudouin, à la technique Georges Thaud.